amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachaîneguitare.com. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une nouvelle interview depuis le showroom intergalactique. Je suis avec the one and only Régis Savigny. Comment est-ce qu'il va bien, Régis Savigny, déjà?
Eh ben, il va pas mal.
Il va pas mal.
Ouais, ça va.
Il a survécu à la circulation et au garage dans Paris, tout va bien?
Ouais, c'est presque une seconde nature maintenant.
Ouais. D'accord, très bien. Dis-moi, la dernière fois qu'on s'était croisé, c'était pas plus tard qu'il y a pas longtemps. C'était pour les sessions du volume 2 de United Guitars, où on a fait une petite micro-interview. Là, quelques semaines après, comment, toujours la même bonne impression de ces sessions-là?
Ah oui, les sessions se sont bien passées. Après, je parle pour moi, hein. Pour les autres, je sais pas.
Tu peux balancer pour les autres,
ouais,
sinon.
Non, parce que je pense que chacun a sa vision du truc et tant mieux. Ouais. Moi, ça s'est très bien passé. Globalement, j'avais prévu que, de toute façon, on n'aurait que 3 heures pour tout enregistrer. Donc, j'ai écrit quelque chose qui s'enregistrait en 3 heures.
D'accord.
Qui pouvait se jouer en trio. Donc le thème et l'accompagnement, c'est une seule et même guitare. Donc en fait, tout le titre quasiment, c'est une seule prise.
D'accord.
Voilà, à peu de choses près, j'ai dû refaire le thème de la fin parce que je m'étais pété un ongle en suivant le batteur. Au niveau de la dynamique, il faut y aller. Donc on a
enthousiasme, tout ça.
On y va. Et puis c'est ce qui fait que le titre sonne plutôt live, donc c'est plutôt cool. Là, on a eu deux invités dessus. En tout cas, moi, j'ai eu deux invités, ouais. À savoir François Tuffet, qui avait gagné le concours, ouais. United Guitars l'année dernière. Mm-hmm. J'étais pas là, moi, je jouais ailleurs ce jour-là, mais on m'a dit que c'était très bien ce qu'il faisait. Ouais. Effectivement, mm-hmm. C'est très bien ce qu'il fait. Qui est venu faire un chorus. Et puis on a eu Nico Chona aussi, de Tone Factory, qui nous a pareil une prise, hein. Il est arrivé, il a branché, il a joué, ça vous va? Parce que moi, c'est ce que je voulais faire. Ok, c'est bon, voilà. Vu qu'on avait besoin de temps, si lui était content, nous on était très contents. Ouais. Donc voilà, Mr. Wentake. Donc il y a plein, ouais, sur ce morceau là tout n'a pas été enregistré en même temps, mais mm-hmm. quasiment tout. Et puis c'est quasi qu'une prise à chaque fois, donc ça reste assez frais et moi, c'est ce que je voulais faire, donc je suis très content.
D'accord.
Puis j'avais des musiciens de haut niveau à la rythmique, donc j'avais un basse batte de folie.
François Delacoudre à la basse, et à la batterie, c'était qui?
Nicolas Vicaro. Nicolas Vicaro, c'est encore un autre Nicolas, mais voilà, qui est arrivé un peu comme ça, les mains dans les poches. Sans vraiment avoir trop écouté le truc, mais ouais. Qui s'est très vite mis dedans, parce que c'est son truc, en fait, il sait bien le faire. Et puis surtout, ça a beaucoup, beaucoup réagi, donc c'était très, très musical, très, très, très organique, finalement. Son jeu se prête à ça, et puis il a vraiment, vraiment poussé le bouchon au moment où il avait besoin de le pousser. Donc ouais, non, vraiment, vraiment, j'ai eu de la chance.
D'accord. Tu peux nous en faire un petit bout, là, en exclusivité mondiale, un petit bout du riff, un petit bout de thème, un petit bout de quelque chose.
Attends, je l'ai pas joué depuis que je l'ai enregistré, donc je sais plus comment ça se.
Je peux pas t'aider là. Moi, je l'ai pas écouté non plus. Hein.
Quoi. Ça ressemble un peu à ça, c'est une petite balade tranquille qui pourrait jouer à la guitare acoustique, en fait, finalement.
D'accord.
Voilà, bon, qui a la guitare électrique et puis qui finit par partir en sucette, mais globalement, c'est ça. Voilà. L'esprit, c'est ça, beaucoup de cordes à vide et beaucoup d'air, en tout cas, dans le thème.
D'accord. Est-ce que tu vas être le guitariste rythmique du concert qui va reprendre, qui va devoir donc tout réécouter, tout par cœur pour tout refaire comme tu avais fait pour le volume 1? Plus jamais ça.
Alors moi je re-signe. Hein, ouais. S'il faut, moi c'est le genre de plan. De toute façon, à partir du moment où il faut être à la rythmique et puis il faut être derrière et assurer le truc, ça c'est vraiment mon genre de kiff. Donc sinon, s'il y a moyen de le refaire, voilà. J'ai pas d'informations dans ce sens-là, mais j'ai pas d'informations dans l'autre sens non plus. Donc, je pars du principe que c'est moi qui vais m'y coller. Mmh. Si ça peut se faire, je serai là, ouais. Pas de problème.
Sauf que là, sur le concert, va falloir que tu sortes de ton rôle de rythmicien et puis être devant la scène et faire le kéké encore plus comme tout le monde, non?
Oui, bah, s'il faut, je le ferai. Oui, bah, non, mais voilà, on est là un peu aussi pour faire le show. Ça fait partie de. On n'aurait pas choisi cet instrument-là si on avait envie de rester derrière. Après, voilà, on le fera chacun d'autre manière. Mais oui, bien sûr, bien sûr.
Okay. Alors justement, parlons de pourquoi tu as choisi la guitare et tu ne vas pas échapper à la traditionnelle question d'introduction. Quelle était ta première guitare?
Ma première guitare, c'était une Aria Pro 2, je crois que c'était SL, ST3, un truc comme ça, enfin un truc pas. Enfin, que j'imagine pas être terrible, mais on se rend souvent compte que les trucs qui n'étaient pas terribles à l'époque, ça sonnait pas terrible parce que nous, on sonnait pas terrible. Et que j'ai. Voilà,
Il y a
j'ai.
parfois un lien, c'est vrai.
Ouais, et je. Par exemple, j'ai un ampli AG20, Aria AG20, qui allait avec la guitare et qui est techniquement une bouse, mais que j'ai gardé parce que des fois en studio, c'est pile le son qui peut.
Quoi, son bouse?
Ouais, non, mais même des fois, ça fonctionne très bien avec un micro devant. Il y a plein de. Enfin, des fois, il y a des prises qui sont faites avec ça et on a l'impression que c'est un ampli énorme, très haut de gamme, rien du tout. C'est un vieil Aria AG20 et en fait, ça marche pas mal. Donc, ouais, souvent, les instruments qu'on s'imaginait être pourris à l'époque, bon, des fois, le son, mais là, en l'occurrence, donc, il faudra que je rejoue sur une Aria SLS-C3 pour me rendre compte de.
Si t'as fait des progrès depuis, ou
oui,
si la guitare était vraiment pas
voilà,
bonne.
si la guitare a fait des progrès ou si voilà, où elle est restée là où je l'ai laissée, moi, voilà.
Ça a été quoi ton Smoke on the Water, c'est le riff qui a fait que t'as eu envie de te lancer dans ce métier incroyable?
Alors, Smoke on the Water, c'est le premier truc que j'ai joué sur cette guitare-là, quand elle était
Ouais.
encore dans le carton, que j'ai pas le droit de la déballer parce que c'était pas encore Noël.
D'accord.
Donc, j'ouvrais discrètement le carton et puis je jouais comme je pouvais, ce que
Il y
j'ai
a
fait.
prescription, donc ça
Ouais,
va.
non, je jouais comme ça, avec la guitare encore dans le carton, puis je jouais sur une corde comme ça, voilà, le riff. Qu'est-ce qui m'a donné envie de jouer de la guitare? Je crois que c'est un mélange de Joe Satriani, Surfing with the Alien, Metallica, Master of Puppets. J'avais un pote à qui je joue toujours, Grégory Barton, qui est professionnel, lui, mais bon, on joue encore toujours ensemble et ça fait 40 ans qu'on se connaît. Et son grand frère, lui, avait une collection de disques de métal et de pas mal de trucs, et c'est lui qui nous a un petit peu fait une partie de notre culture musicale, et en tout cas de la mienne. Et donc, Metallica, Master of Puppets, ça a été un gros choc, ouais. Et puis, pas mal Mark Knopfler, Dire
Ah
Straits.
ouais,
Ah
d'accord.
oui, le. Mais voilà, Michael Field aussi. Ah ouais, Michael Field, énorme. J'aimais beaucoup tout ce qui était. Je jouais du synthé quand j'étais gamin. J'étais plutôt clavier et choses comme ça. Et donc, moi, tout ce qui était Jean-Michel Jarre, ça m'a vraiment. Ça me faisait vraiment quelque chose. Et puis forcément, bah, on cherche tout ce qui existe un petit peu en musique, un peu sophistiqué, un peu comme ça. Alors, je suis pas passé par Pink Floyd.
D'accord.
J'aurais pu, parce
Ouais.
que vraiment, ça, voilà. Mais je suis tombé plutôt sur Michael Field. Et moi, le côté, effectivement, très progressif de la musique, le côté très mélodique aussi du gars quand même, parce que c'est quand même un mélodiste avant tout. Ça m'a vraiment, ouais, pas mal influencé en tout cas. Metheny ensuite,
D'accord.
ouais,
Ah oui, ok.
oui, ça pareil, ça a été aussi une grosse influence. Puis après plus tard, d'autres, mais voilà.
Des choses qui te restent en mémoire que tu pourrais nous jouer comme ça, de cette boîte de Madeleine là?
Pas vraiment parce que en fait, j'adorais écouter ces
Ouais.
trucs-là. Mais j'ai jamais passé le pas jusqu'à apprendre les trucs que j'aimais écouter, puisque j'aimais les écouter, il suffisait que je. Donc, si, je dois me rappeler d'un. Hop, là, ça.
On y voit,
Merci de le faire.
ça va être la surprise.
Voilà ce genre de.
De l'argent pour rien.
Oui, voilà, c'est ça, de l'argent pour rien. Non, en fait. C'est surtout que quand j'étais gamin, quand j'ai commencé la guitare, tout de suite, j'ai fini dans un orchestre de bal.
D'accord.
Et que donc, du coup, bah, j'apprenais pas trop les morceaux. Moi, j'apprenais Goldman, Axel Bauer, Téléphone, enfin, les trucs qu'on jouait pour faire danser les gens. Donc, moi, les premiers morceaux que j'ai appris quand j'étais gamin, c'était plus ces morceaux-là.
D'accord.
Voilà. Alors que j'écoutais vraiment toute autre chose. Mais
OK.
ouais, quand 14, 15 ans, je faisais des balles, quoi. On dit des balles musettes, mais oui, c'était ça. Il y avait un accordéoniste, et puis voilà. Donc, à partir du moment où j'ai su lire une grille d'accords, mon prof de guitare m'avait appris tous les rythmes un peu classiques, de la begin, la valse, le tango, voilà. Puis bon, allez, prône ma poule,
Ouais.
un classeur de balles devant les yeux. Puis, et moi, pendant ouais, jusqu'à l'âge de 20, 22 ans, j'ai su faire que ça, quoi, lire, jouer des grilles.
Donc, tu as été pro dès le début et ça a été ça ou c'était un peu à côté d'autre chose?
Ben, moi, j'ai toujours fait des études, enfin, j'ai fait longtemps des études, jusqu'à l'âge de, je sais pas, 26, 27 ans, j'ai traîné pas mal sur les bancs des facs, de droit, de philo, enfin, j'ai fait pas mal de trucs comme ça. Ce qui finalement me sert pas trop tous les jours là, mais ouais, non, c'était un peu le. Bon, il fallait faire des études. Dans la famille, on faisait des études, donc je faisais des études. Mais je gagnais ma vie et je payais une partie de mes études avec la musique. Donc, c'était pas vraiment pro. Mais, enfin, à une époque, effectivement, je faisais mes études, mais je jouais 2 fois par semaine payé au cachet. Donc,
D'accord.
ça commençait à faire un peu pro quand même. Ouais. Donc, puis au bout d'un moment, en fait, j'ai pas eu le temps de finir mes études à chaque fois parce que j'avais vraiment beaucoup de dates. Et puis voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je suis musicien, alors je vais
Autant
arrêter de.
assumer.
Autant assumer, autant faire le truc, voilà.
Et en termes de formation, donc complètement autodidacte, ou tu as eu des cours, des maîtres, des mentors
Ouais, autodidacte, j'y crois pas, moi. Je pense qu'on n'apprend jamais tout seul, d'une manière ou d'une autre. Si on met le disque de Hendrix et qu'on pique du Hendrix, on apprend avec Hendrix, quoi.
Pas faux.
Voilà. Mais j'ai pris au début des cours particuliers avec un prof qui faisait du bal, lui, donc voilà, qui était plutôt versé dans le classique, mais il faisait de la guitare électrique. Il avait une guitare Ibanez XING, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'était les premières guitares MIDI.
Ah oui, d'accord,
Les
ouais,
machins super lourds sans tête et tout ça. Enfin, c'était assez immonde comme guitare, mais bon, c'était rigolo. C'était rigolo. Donc, oui, j'ai fait ça. J'avais fait un peu d'école de musique quand j'étais gamin, 6-7 ans, voilà, apprendre à lire le solfège un tout petit peu. Et puis j'ai pris quelques cours à droite, à gauche. J'ai fait des stages, des choses comme ça. Je me rappelle d'un stage à la MAI avec Yannick Robert, notamment.
Ah oui.
Ouais, j'avais pas mal progressé juste avec allez, 10 minutes du cours de Yannick Robert.
D'accord, t'es reparti avec 6 mois de
Je suis
boulot.
parti avec. Ouais, bah, ça c'est le grand classique, hein. Et puis j'ai fait une année d'école de jazz, histoire de me dire, OK, c'est quoi le jazz? C'est quoi ce truc-là? Bon, je sais toujours pas le jouer,
Ouais.
mais voilà, je comprends pourquoi maintenant. Voilà. Non, non, mais c'est bien de comprendre aussi comment ça fonctionne. J'ai mis du temps à comprendre pas mal de petits trucs. Surtout, ça vient sans doute du fait que j'ai pas vraiment repiqué puis bien étudié les trucs que j'écoutais vraiment. Et puis voilà, j'étais un petit peu, ouais, entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. En gros, ce que j'écoutais, puisque moi je jouais au quotidien, il y a une dichotomie pendant très 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 longtemps. Et puis, ben, j'ai pas mal appris après, effectivement, en écoutant, en retranscrivant peut-être un peu plus les choses qui me faisaient envie. Puis j'ai croisé, ben, grâce au magazine, notamment Guitar Extreme, j'ai pris quelques cours pour le magazine. Mais enfin, du coup, je me suis servi aussi avec Robin Ford, avec Mike Stern, et puis d'autres, voilà. Moi,
Peut faire pire comme prof, c'est bien ça.
mais du coup, voilà, le fait d'avoir une information de première bourre fait que ça permet d'aller assez vite à l'essentiel, en fait. Pat Martino aussi, ça m'a pas mal. Alors, Pat Martino, 3 minutes de conversation, 10 ans de boulot, quoi.
D'accord.
Le ratio est quand même assez fort. Donc ça c'est plutôt des bons trucs. Et puis j'ai suivi très peu de temps, malheureusement, les cours de Jean-Pierre Chalais, qui est un
D'accord.
pianiste de jazz, voilà, qui est du genre très compétent, et qui m'a expliqué pas mal de choses très utiles, en tout cas dans la musique et la manière dont ça vit, en tout cas, plus que dans la pure théorie. Enfin, c'est à base de théorie, mais voilà, le côté très organique de la chose, je l'ai compris, en tout cas, avec ce gars-là.
D'accord. Le Régis Savigny pré-pandémie, c'était quoi un peu sa vie de musicien? Enfin, sa vie tout court en fait. Qu'est-ce qui payait les factures à la fin du mois? Voilà.
Voilà, ce qui paye les factures à la fin du mois, en tout cas pour l'instant encore, c'est essentiellement la scène, le studio, la réalisation aussi pour d'autres, beaucoup,
D'accord.
beaucoup. Je joue surtout pour les autres, en fait. Moi, je travaille
D'accord.
pour les projets des autres, et voilà, j'ai des projets à moi aussi perso, notamment le groupe Ostende, qui est un duo électro où il y a de la guitare, mais pas c'est pas le sujet principal de la chose. C'est vraiment le texte, hein, qui est en avant dans ce projet-là, même s'il y a des belles parties de guitare, on essaie de faire en sorte que ce soit joli et plaisant à jouer, mais enfin, c'est, voilà. Donc ça, un peu d'enseignement, parce que je pense que c'est primordial d'enseigner, quoi qu'il arrive. Faut pas... Enfin, je néglige pas ça, même si j'en ai pas nécessairement besoin d'un point de vue financier. Enfin, je vais touchons du bois. En tout cas, d'un point de vue intellectuel, et je pense que c'est toujours bien d'enseigner. Donc, je garde toujours des heures d'enseignement.
Sous quelle forme, des cours particuliers ou dans une structure
Plusieurs formes. Je donne des cours de guitare, vraiment, voilà, en formation professionnelle à Orléans. Des cours dans une MJC pour vraiment avoir des niveaux amateurs et des gens qui pratiquent vraiment la guitare au quotidien pour se faire plaisir. Et puis j'enseigne aussi la réalisation et la production musicale dans une école de musique. Voilà.
D'accord, donc t'as beaucoup de casquettes au final.
Ben, je refuse, en fait, je refuse peu de travail, donc ce qui fait que je me suis mis à faire beaucoup de choses comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on me propose quelque chose et que ça me paraît intéressant, je dis oui.
D'accord.
Donc c'est comme ça que j'ai pu me retrouver dans un orchestre symphonique, voilà, à jouer du Bernstein. Théoriquement, je ne suis pas très bon lecteur, donc j'avais rien à faire là-dedans. Mais bon, à partir du moment où on avait les partitions à l'avance, bon, bref, j'ai dit oui. Et donc, voilà, quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe de Guitar Extreme, à l'époque c'était Riff Magazine, pour faire des interviews au départ, puis tester du matériel, bah, j'ai dit oui, parce que voilà, ça me plaisait. Puis il y a plein de choses comme ça. Si on me propose un projet qui est suffisamment excitant et puis qui fait, bah, voilà, qui moi va un petit peu me faire sortir de ma zone de confort, en général, je dis oui.
D'accord. Il faut quoi comme qualité pour être j'allais dire un bon contributeur, c'est pas tellement le terme, mais quand on fait appel à toi dans un projet, bah il faut se mettre au service de l'artiste, etc. Enfin, quel que soit un peu le type de projet. Donc on met son ego dans sa poche, on ouvre ses grandes oreilles, et puis on essaye il faut quoi comme qualité?
Je crois qu'il faut savoir où est sa place, en fait.
Ouais.
Alors, savoir où est sa place dans les décideurs, parce que quand on est juste guitariste de session et qu'il y a un réalisateur, bah, on peut donner son avis quand on nous le demande. Enfin, en général, si le réalisateur dit que la prise est bonne et que c'est bon, ça va, c'est que ça va. Il faut faire confiance. Donc, par exemple, là, c'est bien ça, de savoir où se trouve sa place. Pas le moment de dire, il sert à rien le deuxième refrain, là.
Qui a écrit ça?
Oui, voilà, c'est... Non, non, on est là, souvent, voilà, quand on... Alors, sur scène, en plus, c'est différent. Sur scène, on est là aussi pour rassurer l'artiste et puis pour qu'il se sente bien et qu'il soit à même de délivrer son message. Mais en studio, oui, il faut être réactif, il faut savoir aussi être créatif, c'est-à-dire apporter le truc qui fait que, voilà... Enfin, se dire que si je dois jouer un do majeur, c'est pas le do majeur, c'est pas juste jouer une position de do majeur. Et voilà, le do majeur, c'est un équilibre. Donc il faut savoir comment on va le faire vivre, ce do majeur. Voilà, ça peut être des fois où on demande vraiment des compétences purement guitaristiques. Comment un do majeur à la guitare va pouvoir un petit peu avoir de la saveur. Et c'est pas juste mettre des pédales, hein. C'est vraiment aussi imaginer que voilà.
Voici ou
Ça peut, c'est un voicing, c'est une manière de le faire bouger, hein. Juste si on fait bouger.
Donne-nous un exemple, ouais.
Ouais, par exemple, on a le. Voilà. De do majeur comme ça, bon bah déjà rien que ça peut être une manière de le faire jouer. On peut aussi se dire, ok, c'est un do majeur avec voilà le mode ionien avant le premier degré. Bon, on a le droit de jouer on est do, on déséquilibre, on rééquilibre. Voilà, ça peut être encore un do majeur, c'est une manière de le jouer. On peut le jouer aussi comme ça. S'il y a la basse do qui reste comme ça. Tout ça, c'est du do. Voilà. Faut pas se dire, il y a marqué do dans la grille, et ben moi, je vais jouer que do.
Je te fais le do syndical et puis c'est bon,
Oui,
quoi.
voilà, mais souvent, on a tendance à confondre la grammaire du truc, ce qui est écrit sur la grille, et puis la musique en elle-même. On se rend compte que, alors s'il y a une partie écrite, on va jouer la partie écrite, évidemment. Et si par contre on a de la place, bah, il faut voilà, faire en sorte que ce qu'on joue ne soit pas juste la grammaire qui nous est donnée, mais que ça suive la musique, que ça suive les intentions. On travaille aussi sur l'émotion, sur l'énergie. Voilà, on est les nuances aussi, c'est important. Quoi. C'est pas tout à fond et puis après on verra au mixage. Quoi. Il faut essayer de faire en sorte que la dynamique du jeu corresponde aussi à ce qu'on entend. D'ailleurs, ça sert à rien d'écraser le. Voilà le son et puis après se dire ok mais c'est pas grave de toute façon ça va être baissé, non si on essaie de voilà d'être dans le son et puis de retenir s'il y a besoin de retenir et puis quand il faut pousser voilà faut toujours avoir cette notion de dynamique en tête quand on est en studio parce que sinon effectivement on a vite fait de faire des choses assez plates qui sont pénibles à mixer aussi derrière faut penser aux gens qui sont derrière normalement ça, voilà normalement la mise à plat doit déjà donner à peu près doit donner à peu près tout ce que le morceau peut donner. Le mixage évidemment derrière va sublimer la chose mais normalement, il faut travailler son track building aussi, enfin la manière dont la piste, le morceau est construit et se développe. Ça, il faut avoir conscience de ça aussi. Voilà, en gros.
Il faut se méfier un peu d'un des grands mensonges du show business. On réglera ça au mix, quoi.
Oui, bah oui. Il y a des choses qu'on peut régler au mix. Il y a encore des choix qui sont possibles au mix. Mais si on peut le faire avant. Ben voilà, il y a une autre règle du showbiz, hein, c'est caca in, caca out. Donc,
c'est pas mal, ça, j'adore. Ouais,
non, mais voilà, c'est se dire que si ça sonne, voilà, si on n'est pas convaincu au départ, voilà, il y a peu de chances que derrière ça fonctionne, quoi. Donc oui, il faut essayer de donner le meilleur déjà dès la prise, je pense.
Et est-ce que ça, c'est un muscle qui se travaille, le fait d'être efficace et rapide en session, ou on est né avec et puis voilà?
Je pense que tout se travaille. Le session man né, ça, non, ça ne veut rien dire. Hein. Je pense qu'il y a énormément de choses qui s'apprennent en faisant des erreurs aussi. Donc non, je pense que c'est bien de se planter aussi un petit peu de temps en temps. Puis des fois, on fait des erreurs, puis des erreurs qui finalement restent sur le disque. Des fois, c'est bien. Ouais, voilà, des fois, il ne faut pas, mais mais il y a des fois, oui, il y a des erreurs qui restent. Et puis, on se dit, ah bah tiens, oui, ça, c'était... C'est pas ce que j'ai prévu, mais ça fonctionne. Ça marche, quoi. Ouais. Bah, en particulier dans les chorus. Hein. J'aime bien, par exemple, ouais, sur une guitare qui va être très en avant, si tout le reste est droit, si c'est le riff principal, j'aime bien qu'il y ait un petit truc qui accroche quand même. Qu'on n'ait pas l'impression.
Une imperfection.
Oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui gratte. Par contre, derrière, il faut que tout le reste soit droit. Ou alors, ou qu'il y ait une guitare qui soit un petit peu lâche dans l'arrangement. Si toutes les autres sont droites, et ça redonne de l'élasticité, là où en studio, on aurait tendance à faire des trucs, surtout avec Pro Tools, on voit tout de suite les...
Voilà.
Il ne faut pas regarder l'écran quand on est... Quand on n'a pas besoin de le regarder, que l'opérateur Pro Tools regarde l'écran, que éventuellement le réalisateur regarde, parce qu'il y a un petit truc qui le gêne, et puis qu'il a besoin de vérifier ce qui est un petit peu à côté. D'accord, mais en tant que musicien, il faut absolument s'abstenir de regarder les impacts et puis les formes d'ondes. Quoi. Voilà. Et c'est bien de temps en temps qu'il y ait effectivement une petite guitare qui dérape, qui ne change pas d'accord tout de suite alors que tout le reste a changé, mais qu'elle reste encore un peu sur l'accord d'avant pour faire un petit retard de résolution. Si c'est un peu bas dans le mix, du coup, ça permet d'avoir ces sensations un petit peu d'élasticité, justement, qui peuvent être très intéressantes et parfois plus riches que de jouer exactement ce qui doit être marqué.
Ça me rappelle une vidéo qui a bien marché sur Internet. Je pense que c'est Rick Beato qui a fait ça, où il a pris, je ne sais plus quelle piste de Led Zeppelin, où il a quantifié, je ne sais plus comment on dit, enfin en français, toute la batterie de John Bonham. Et du coup, le morceau tombe complètement par terre parce qu'il n'y a plus de swing. C'est paf, paf, c'est tout réglé microseconde. Et on a tendance, comme tu viens d'expliquer, à oublier ça. On se dit, bah non, il faut que tout soit parfait, il faut tout mettre impeccable. Mais si tu mets tout impeccable, bah, ça perd toute sa vie, quoi.
Ah bah ça meurt, oui. C'est toujours ces histoires d'élastique. Enfin, la vie fonctionne comme ça, les cellules fonctionnent comme ça. Ça prend de la flotte, ça relâche, ça prend de la flotte, ça relâche. Bah, le cœur, c'est ça, ça se charge, ça renvoie, ça... La musique, ça fonctionne exactement de la même manière. Et il faut qu'il y ait un élastique. Alors, pour qu'il y ait un élastique, il faut qu'il y ait un point d'ancrage. Il faut quand même qu'il y ait
attaché quelque part.
Il faut quand même qu'on ait une sensation de tempo qui soit claire. Il faut que le tempo ne bouge pas. Voilà. Ouais. Après, une fois qu'on a cette sensation d'ancrage, le reste peut un peu bouger. Ça peut un peu flotter. Mais comme la tonalité peut avoir ça peut flotter, on peut passer par une septième majeure, une septième mineure selon l'endroit où on est, le fameux quart de ton entre la tierce mineure, la tierce majeure, ou entre la septième mineure et la septième majeure qu'on peut avoir dans le blues. Bah ça, c'est typiquement des choses qui sont fausses, mais qu'on a l'habitude d'entendre et qui peuvent être juste dans l'émotion, donc en fait c'est ça, faut, si s'il n'y a pas d'émotion dans la prise, faut pas la garder. Et s'il y a une prise qui peut être techniquement peut-être moins bonne, mais qui est pleine d'émotions, bon, souvent c'est celle-là qu'on garde. Hein. C'est pour ça qu'on garde souvent les premières, deuxième, troisième prises. C'est pas qu'elles sont mieux jouées, voilà. Alors des fois elles sont mieux jouées parce qu'on est quand même plus concentré, mais c'est souvent qu'il y a un sentiment d'urgence ou de fragilité qui va être plus intéressant. Il y a plein de réalisateurs qui vont faire deux, trois prises de voix à leur chanteur et fini, et ça va sur la bande, et c'est ce qui sort et qui peut faire un tube. Hein. Enfin, Brel en a fait pas mal, et comme ça aussi, hein, une prise sur les Marquises ou deux, non, une prise. Et puis, voilà, le réalisateur qui dit, on va peut-être refaire une deuxième pour. Non, mais elle est bonne, elle est pas bonne, elle est bonne. Eh bien, nous n'allons pas retenir ces messieurs de l'orchestre plus longtemps. Ouais, voilà, merci. Ouais, ou Sinatra qui rentre dans le studio et qui dit au chauffeur de taxi, vous laissez tourner, je reviens. Et puis, Fly me to the moon, hop là, et il se barre. Et
D'accord.
voilà, bon, quand c'est bon,
Toi, tu
c'est
fais
bon.
comme ça aussi?
Non, bah non, parce qu'on est là aussi pour rassurer. Voilà, non, bah non, on essaie de. Bah après, si ça marche en une prise, oui, ça marche en une prise. On va pas là, sur United Guitars, pour prendre un exemple récent, bah effectivement, c'était la troisième prise. Mais dans son intégralité pour le morceau, le temps qu'on se cale avec la basse et la batterie. Et puis après, il y a plein de prises que j'ai gardées et des maquettes.
Ouais.
J'ai une prise de guitare slide que j'ai fait en témoin, mais je fais toujours en sorte que les guitares témoin elles soient clean, d'un point de vue technique,
Ah ouais.
d'un point de vue enregistrement, et pour que ça soit toujours exploitable. Parce que par expérience, des fois, on fait pas mieux que on
Ouais, la
veut. On veut
première
faire
idée était la bonne, la
la
première
première idée,
intention.
voilà, surtout quand on a un peu improvisé, voilà. Et donc j'ai un passage de thème et un passage de slide que j'ai complètement laissé, qui était sur la maquette, et que j'ai laissé parce que c'était, voilà, c'était la première prise, et ça allait. Et par contre, il y a des prises que j'ai refaites en une prise certes, mais des accompagnements, des petits ostinatos, parce que fallait que ça colle quand même à la pulse de la batterie.
Ouais.
Donc là, priorité quand même à la pulse, et donc on va refaire ce qui doit vraiment coller à la batterie, mais toujours en réagissant et en étant souple, quoi. Voilà.
D'accord. Ça me rappelle une image que Jean-Michel Cajdan avait utilisée dans une masterclass que j'avais organisée il y a quelques temps. Il avait utilisé l'image du train pour le tempo, et il disait, bah voilà, que vous êtes dans le train, vous pouvez bouger dans le train, et puis tout va bien, parce que vous êtes dans le train, évidemment, il ne faut pas tomber du train, parce que là, tu perds tout le monde, mais tu
Ouais.
peux être un petit peu en avant, un petit peu en arrière, tant que tu es dans le train, ça va fonctionner, quoi.
C'est ça. Bah, il faut que le voilà, qu'on sente l'énergie. Il faut qu'on sente l'être humain aussi derrière. Il y a des êtres humains qui. Enfin, de toute façon, l'être humain, il est programmé pour reconnaître les autres. Enfin, pour communiquer avec des humains. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'on est sensible au visage. C'est pour ça que là, le masque, ça pose problème. Mais parce que voilà, on a besoin de ça. Et il n'y a rien de plus compliqué à imiter que l'humain. Alors, évidemment, là, avec l'intelligence artificielle, on va y arriver. C'est évident. Mais en attendant, pour l'instant, il n'y a rien de mieux que l'être humain. Donc si c'est pour jouer comme une machine, bah, non, autant programmer une machine, voilà. Et puis il y a des musiques qui s'en accordent très bien, hein, les musiques électroniques qui, enfin, une séquence, des fois on a besoin d'une machine précisément pour avoir ce côté très droit, et voilà. Alors c'est intéressant d'avoir des fois des mélanges avec des séquences, des choses qui sont très très très, très droites, et puis d'aller mettre justement derrière. Un peu d'aléatoire en jouant de manière un peu lâche, et ça fonctionne bien. Enfin, les mélanges machine-humain en général, voilà. Mobile le fait très bien, par exemple. Hein. Enfin, ça fonctionne et ça fait danser les gens. Donc, c'est que
C'est très
quelque
bien.
part, il y a une vérité. Je ne dis pas que ça doit être absolument comme ça tout le temps, et voilà, mais ça tant que ça parle aux gens, je pense qu'il y a quelque chose à creuser, oui.
Il est terrible ce Régis, je m'arrête une seconde pour relancer les caméras, puis il nous fait un petit interlude musical en plus, c'est bien ça. C'est quoi déjà ce morceau là?
C'est I Wish.
Ah oui,
I Wish
c'est ça.
de Stevie Wonder, oui.
Génial, génial, terrible.
Oui. Ah bah Stevie Wonder. Bah typiquement le genre de gars, on ouvre les pistes séparées de Superstition, par exemple. Il n'y a pas une piste de clavinette qui tourne. Individuellement, c'est un merdier sans nom.
Ah ouais. Tu les écoutes, tu dis c'est complètement à côté.
C'est, ouais. Qui est le clampin qui a joué sur. qui a foutu la merde sur. Ah, c'est toi, Stevie, d'accord. Et par contre, on met tout ensemble et ça fonctionne.
Ah ouais,
c'est typiquement l'exemple du morceau qui ne groove pas en individuel. Mmh. Et on met tout ensemble et ben voilà, c'est la magie qu'on connaît quand on écoute Superstition. Quoi. Mmh. Et il y a des exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. On écoute les pistes séparées des Beatles, pareil. Alors, bizarrement, Ringo Starr, on a tendance à dire « Oui, non, Ringo Starr, ça joue un peu. » Non, ça joue très, très bien et très, très droit en général. Et par contre, McCartney fout bien la merde de temps en temps, mais c'est ça qui est intéressant, quoi. Sur Why My Guitar Gently Weeps, la basse de McCartney, c'est ce qui amène la saturation. Toute la saturation vient de la basse.
D'accord.
On a l'impression qu'on écoute la basse et on comprend pourquoi Lemmy aime bien Paul McCartney.
Ouais.
Enfin bon, c'est une basse qui est hyper saturée. Et sur le refrain, quand ça passe en majeur, on a vraiment la basse à la McCartney avec les petits demi-tons, les petits chromatismes qui vont bien, voilà, mais sur le couplet, c'est vraiment, il va vraiment jouer des... plutôt là. Donc, je recommence avec l'inspiration. Voilà, c'est lui qui joue ces parties-là, tout en faisant la partie de basse, enfin, il joue vraiment ce truc-là, quoi. Et il y a des pistes dans ce morceau-là, notamment, qui sont là pour foutre la merde. La piste
si elles ne sont pas là, ça ne marche pas.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment des pistes où on entend vaguement McCartney au fond qui dit « Ah, ah !» C'est l'animal mourant, voilà. Et non, mais c'est vrai, écoutez, là, et si on tend l'oreille, on l'entend, hein, sur la fin, voilà, c'est que ça, quoi. Et il y a vraiment des pistes qui servent à ça dans les Beatles. En fait, en écoutant les Beatles, on se rend compte qu'ils ont posé les jalons de quasiment 95% de ce qu'on fait en studio actuellement. Tout ce qu'on peut imaginer de traficoter les sons, ils l'ont fait. Voilà, et c'est juste parce qu'ils se disaient, bon, on peut le faire ça, bon, on le fait alors. Voilà, c'est pas le... Ils ont pas...
Et puis des fois, on peut pas le faire, allez, on le fait quand même, quoi.
Oui, c'est ça, on s'en fout, en fait. On s'en fout. Enfin, à cette époque-là, c'est vrai que Clapton, qui arrive avec son Marshall, je vais le jouer à fond. Et les ingé sons, comme qui étaient les mecs en blouse blanche à l'époque, non, moi, je suis pas d'accord. Non, mais c'est moi, je joue à fond ou je joue pas. Bon, bah d'accord, on va essayer, quoi. Puis bon, bah ça donne le son des Blues Breakers, quoi. Mmh. Voilà, mais oui, bah il fallait créer un peu les choses. C'est vrai que maintenant on ne fait que reproduire, pour beaucoup en tout cas, ce qui se faisait à l'époque. Alors certains jouent plus vite, certains il y a des techniques qui évoluent, la musique, Dieu merci, change, mais il y a quand même beaucoup de choses. On a encore à jouer sur des guitares. Voilà, en bois, avec 21 cases pour certaines, et puis des amplis à lampe. Voilà. Bon. Mais si c'est pour refaire de toute façon la musique des années 50, 50 60, 70, bah autant utiliser le matos qui était là à l'époque. On va pas, voilà.
Alors, tu me tends une perche en or. Est-ce que ton rapport justement au matos a changé depuis le début de ta carrière et maintenant?
Oui, je venais des claviers avant, donc pour moi, tout ce qui était technologique, c'était mieux. Donc moi, j'ai tout de suite eu beaucoup de passion pour les multi-effets. Le Boss SE50, les trucs un peu pourris qui sonnent pas, qui théoriquement sonnent pas. J'ai appris il y a pas longtemps que Billy Gibbons avait un Boss SE70 dans son rack et passait toutes ses guitares pour les égaliser dedans.
Okay.
Donc théoriquement, ce machin-là flingue le son. Bon, mais c'est Billy Gibbons, donc ça marche. Donc voilà, bon, il y a pas de règle, en fait. Donc ouais, j'ai pas joué sur des amplis tout de suite.
D'accord.
Et puis après évidemment, je suis revenu à la raison. Et puis, c'est-à-dire qu'au départ, je ne jouais pas nécessairement des musiques qui nécessitaient ça. Et puis, plus je me suis remis à jouer du rock'n'roll, enfin du rock, de la pop, des musiques comme ça, plus j'ai eu besoin de retrouver déjà moi mes marques. J'aime beaucoup, par exemple, The Edge. Moi, je trouve que
l'utilisation des délais, tout ça, c'est incroyable.
Oui, puis ça même, son utilisation du grain. Puis c'était un des premiers qui, dans les années 80, essayait pas de jouer comme Hendrix, ou plus vite qu'Hendrix. Voilà, il est arrivé, il a juste fait autre chose, quoi. Non, moi, je vais juste mettre une note, et puis c'est la basse qui va bouger, et puis ça va bien le faire. Donc, il a fallu que je retrouve aussi un peu ces outils, que je retrouve mes marques, que je me fasse une culture aussi un petit peu, et du son, que ce soit à l'acoustique, parce que savoir pourquoi telle guitare acoustique sonne comme ça, si on ne les a pas en main, on ne peut pas, voilà. J'ai dû me faire une culture, m'acheter ma première Telecaster, par exemple, faut avoir une Telecaster parce que ça doit être bien, puis j'ai joué ça, je dis c'est quoi cette merde, et puis je ne l'ai pas joué pendant 2-3 ans,
ouais.
Et puis après, je me suis rendu compte, que certains sons, on pouvait les faire qu'avec la Telecaster. Puis finalement, c'est peut-être la guitare que je joue le plus. Enfin, là, en l'occurrence, une Trussard pour moi. Ah oui. Là.
C'est bien connu pour te trimballer partout que ta Trussard. Toi.
Oui, bah c'est parce que c'est une guitare qui permet de faire beaucoup de choses et puis surtout qui est une guitare qui est très vivante, vu qu'elle est creuse, elle a tendance à prendre le feedback, elle a tendance à voilà, donc être un peu imprévisible et ben, souvent on a un peu envie de, voilà, d'avoir ces choses-là et puis, parce que ça permet de mettre un peu moins de gains et puis d'avoir quand même du sustain parce que la guitare. Voilà, fonctionne beaucoup au feedback, donc tout ce qui permet de virer un peu de gain, moi je suis pas contre, donc voilà.
Plus tu vieillis, moins tu mets de gain.
Ouais, quand j'étais gamin, évidemment, c'est... J'avais des cheveux avant. Et puis non, après, non, c'est pas, non, j'en mets encore beaucoup du gain, c'est pas la question, mais il y a des fois ça s'y prête, des fois ça s'y prête pas, c'est plus ça. Mais ouais, se faire une culture, ça a pas mal changé mon rapport au matériel. Par contre, j'ai jamais été fétichiste. Je me suis jamais dit, il faut que j'ai cette pédale-là pour avoir ce son-là. Et puis le vintage, c'est... Alors oui, il y a des trucs, parce qu'on les... Certaines guitares, par exemple, certaines Gibson, ils ont mis un sacré bout de temps avant de bien les refaire. Voilà. Ouais. Depuis qu'ils sont à Memphis, par exemple, les 335... Maintenant, les 335 Memphis, les custom shops, elles sont très bien et vraiment, c'est des guitares qui sont d'un très bon niveau. Mais on prend les Les Paul, par exemple, avant qu'ils se remettent on se mette à se rappeler comment sonnait une Les Paul des années 50, fin 50, début 60. Dans les années 90, on avait l'impression qu'il fallait que les Les Paul soient très lourdes, puis qu'elles aient un son très gras. Et puis finalement, on s'est rendu compte, Il y a peu de Les Paul 59-60 en circulation, mais quand on en joue une, on se rend compte que finalement, les micros ne sont pas si puissants que ça, deux, ça sonne plutôt claquant, et des fois, on compare une télé 52 d'époque et puis une Les Paul 57 ou 58, on se dit, merde, ça, c'est pas si loin que ça, finalement, c'est pas si éloigné que ça, la Telecaster des années 50 étant finalement plus rauque que ce qu'on imagine. Et la Les Paul, finalement, plus claquante que ce qu'on pouvait se figurer. Donc, en fait, il y a plein de serpents de mer aussi qu'il faut, faut péter la gueule, parce que sinon, on est encombré par ça aussi. Et donc, ça prend du temps. J'en apprends tous les jours. Le rapport au matos change. Mais par contre, j'ai toujours considéré que mes guitares, c'était des outils.
D'accord.
Et,
pas de romantisme là-dedans. Si c'est un outil dont tu as besoin, t'en sers. T'en as plus besoin, tu passes à autre chose.
Oui, si j'ai une guitare qui finalement reste chez moi trop longtemps sans que je la joue, non, je la revends parce que ça veut dire que j'en ai pas besoin. Et voilà, il y a la guitare que mes parents, la deuxième guitare que mes parents m'ont offert, une cheville, je sais pas si tu te rappelles de cette marque-là, c'est une marque coréenne des années 90, qui était très bien fabriquée. Ça c'est la guitare que mes parents m'avaient achetée quand j'avais 15 ans, ma deuxième guitare, quoi. Et celle-là, je la garde, évidemment. Mais pour le reste, non. Enfin, voilà, si je dois garder une guitare, peut-être je vais garder ma Trussard parce que je sais que je vais pouvoir à peu près tout faire avec, ou une 335 parce que c'est à peu près le genre de guitare avec laquelle on peut tout faire. Peut-être une Strat et puis c'est tout, quoi. Pour le reste, ça peut. Si je dois tout revendre, je revends tout, quoi. C'est des outils.
Parle-nous de cet outil que tu as justement sur toi, là. Fais-nous un peu la visite du proprio, c'est une bestiole un peu étrange.
Ouais, c'est une bestiole un peu étrange, parce que c'est une guitare qui n'existe pas en elle-même, puisque c'est un kit que je me suis fait. J'ai trouvé d'abord ce corps-là, c'est un corps Warmoth, j'ai trouvé ça sur Reverb. Donc c'est un corps de Strat, mais avec des... Enfin, qui est prévu pour fonctionner avec de... un accastillage de Telecaster. Et puis donc c'est un manche Chandler, parce que j'ai vu un manche Chandler et j'adore ce que c'est Chandler, vraiment, enfin, ça a été un des premiers aux États-Unis à refaire du néo vintage. C'était un des seuls avec Warmoth à faire des pièces séparées, de qualité. Donc j'ai trouvé ce manche là je les ai assemblés, et puis après j'ai monté des micros Q Pickup. C'est un croate qui fait ça, ils vont sur eBay ou Reverb, je sais plus, enfin c'est pas très cher et c'est vraiment très bien. Par contre, que ce soit pas très cher c'est une chose, mais par contre que ce soit vraiment très bien, c'en est une autre aussi, ouais. Et donc c'est globalement c'est une Telecaster avec déjà les deux sons extrêmes de la Telecaster. Si j'ai envie d'avoir les deux micros, je split, donc j'ai vraiment ma Telecaster.
Quand tu tires le volume à ce moment-là, ça enlève
Ça rajoute ce micro-là.
Ah d'accord, ok.
Ça rajoute ce micro-là, donc ça permet d'avoir d'avoir bah voilà, ça. Et puis, par contre, après, j'ai un 5 positions, donc j'ai vraiment les positions intermédiaires de la strat, même si ça sonne pas comme une strat, et ça sonne pas comme une strat. Donc, c'est presque une strat. En tout cas, c'est vraiment une télé. Et puis, si j'ai besoin, je peux avoir ici les 3 micros. Voilà, ça, je m'en sers jamais, mais sinon, voilà, c'est une guitare simple. Je l'ai gardée en top load parce qu'il y a un petit problème d'alignement avec les férules. Mais j'aime bien le top load parce que ça donne des cordes beaucoup plus réactives, en
Ah oui,
fait. Ouais,
d'accord.
forcément, la longueur inutile, elle est moindre. Et donc, ça, il y a moins d'élasticité sur la corde. Donc, le bend, il est direct. Donc, quand on
Oui,
fait des
plus
triple
vite.
bends, double bends, des choses comme ça, on a besoin d'avoir quelque chose de très direct et de pas devoir en plus gérer avec l'inertie de la
Ouais.
corde. Voilà. Ce qui n'est pas le cas quand on a par exemple sur une 330 ou un truc comme ça, quand on a un chevalet qui va. Le bend sur la 330, il faut le
Faut être
prévoir.
prêt.
Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu moins nerveux. Tout petit peu moins nerveux. Mais des fois, on a besoin d'une guitare un petit peu plus molle. Voilà. Et quand on a besoin d'une guitare très nerveuse, bon, il faut juste voilà, savoir ce qui permet de l'avoir. Voilà.
Tu nous l'as fait écouter un petit peu, les quelques
Oui.
sons caractéristiques de
Oh
cette
bah.
guitare. Donc tu l'appelles comment? C'est la Semi-Caster,
Ouais,
là?
non, c'est la, c'est la, j'en sais rien. C'est quoi? C'est une Strat télé, ouais. Je l'appelle la
D'accord.
Strat télé en une fois.
D'accord.
Je pense que Fender, hein, ils ont commencé à en refaire là. Il y a pas longtemps de ce genre de choses-là. De toute façon, ils savent plus quoi faire Fender.
Ouais.
Donc, mais non, mais c'est aussi
Ah, ils
ils
ont
ont.
essayé tous les mélanges, ouais.
Oui, bah voilà. Mais non, mais c'est bien. Il faut un petit peu se lâcher, quoi. Ils font des erreurs, mais c'est bien, c'est bien. Ils font moins d'erreurs que Gibson, d'ailleurs. Mais non, c'est intéressant. Bah, après, c'est vraiment le
Les petits bends, pédale
Voilà,
style, excellent.
ce genre de petits
Donc
trucs
là, t'étais
là.
où?
Là, je
T'étais
suis vraiment sur la position,
son ridge.
voilà. Toujours avec un peu de compression parce que j'aime bien et toujours avec un petit vibrato très léger, mais parce que
D'accord.
ça permet d'avoir un effet chorus sans chorus en fait. Ça chorus que sur la réverb, du
D'accord.
coup. Donc voilà, j'aime bien ce choses-là. Après, on a vraiment la position un peu strat.
Ouais, c'est à quoi que bien là.
Oui, ça c'est vraiment le truc. Du coup, on a l'autre aussi le.
Donc micro grave, micro milieu, c'est
Là,
ça?
micro grave, micro milieu, ouais. Pour les balades, des choses comme ça. Bon, après, en saturation, ça réagit différemment. Le micro grave, bon, bah là, on est. Voilà, et puis après, on a cette position-là, donc qui est la position.
Position Télécaster, c'est
Voilà, la
ça?
position Telecaster. C'est vrai que ça réagit bien. Enfin, l'intérêt d'avoir un micro plutôt Telecaster, c'est que dès qu'on met un peu de drive, on a quelque chose avec un peu plus de corps. Il faut couper un peu la tonalité, mais à peu près. Donc, ça, c'est la guitare que j'emporte quand je veux avoir une Strat et une télé et pas trop me
D'accord.
prendre la tête. Voilà son caractère propre, hein, cela dit, mais voilà, c'est vraiment la guitare que j'ai utilisée pour faire des rythmiques un petit peu énervées, des choses comme ça. Tout ce que je pourrais utiliser, par exemple, ça peut remplacer un peu une Jaguar, par exemple, un peu dans
D'accord.
le côté un peu nerveux. Voilà.
Ok. Super. Bon bah voilà, on a une visite de cette guitare qui m'a toujours un peu intrigué, que je vais croiser plusieurs fois sur ton compte Instagram.
Oui.
Ouais, qui est bien sympa.
Oui, ah bah voilà, c'est le. Mais parce que je me montre pas mal de kits en ce
Bah
moment,
ouais.
bah c'est pour faire des essais, quoi. J'ai fait une Cabronita aussi avec un manche scalopé, enfin demi-scalopé jusqu'à la case 12.
Voilà, une Cabronita scalopée, ça même Fender a pas osé ça.
Ouais, non, bah non, mais voilà. Et puis finalement, ça marche bien.
Ouais.
Mais pas du tout pour faire du shred, hein. Moi, c'est pas tellement mon propos. Ouais, j'avais deux micros Gretsch qui traînaient. J'ai trouvé ce manche Warmoth scalopé en érable, bah, plutôt très joli, quoi.
Ouais.
Donc bah, j'ai monté ça sur un corps que j'ai trouvé pareil en Espagne, un corps de Cabronita monté par un gars qui bon, j'ai assemblé, sauf que ça fonctionne très bien. Donc
D'accord.
bah je garde du coup, voilà.
C'est la fameuse Telecaster que Jean Fontanil et Richard Daudet veulent absolument acheter, c'est ça, non? C'est pas celle-là?
Alors Richard m'a pas encore fait de proposition,
D'accord, ok.
mais par contre il a beaucoup joué dessus.
Ok.
Ouais, par contre ouais Jean me fait une proposition à chaque fois que, enfin il m'a
D'accord.
pas fait encore des propositions chiffrées, mais alors je sais pas si c'est des propositions ou des menaces finalement. Je
D'accord,
voilà. Mais oui, il aime beaucoup cette guitare. Alors je suis pas sûr qu'il ait déjà joué branché. C'est ça qui est
D'accord.
fabuleux.
Ok.
Mais donc bon non Jean elle n'est pas à vendre,
D'accord.
toujours pas.
Jean, n'insiste pas, écoute, ça devient
Il
indécent.
faut rentrer chez vous, monsieur. Voilà, sinon j'appelle la police.
Dis-moi, Régis, les projets perso sur lesquels on va pouvoir t'entendre, sur lesquels on t'entend, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans les cartons là?
Ce que j'ai dans les cartons, alors de pas très récent, mais quand même un des derniers trucs qui est sorti, c'était l'album d'Anita Farmin, où
Ouais.
on a fait un boulot sympa de réalisation avec mon pote Bruno Ramos.
Oh, il y a plein de couleurs, j'écoutais ça hier en préparant l'interview, plein de couleurs, enfin c'est, on n'est pas dans le blues rock country quoi.
Ah non, non, en l'occurrence, non, mais par contre, c'est vrai que c'est un projet plutôt world et plutôt
Ouais.
oriental. Hein, c'est vrai qu'elle est, bon, elle est iranienne, donc il y a ces couleurs iraniennes, mais moi j'aime bien justement mettre des plans country derrière,
D'accord.
d'avoir des guitares qui flottent un petit peu. Sur les premiers albums, j'avais pas mal utilisé par exemple une guitare ténor Cromwell, donc
D'accord.
archtop, comme celle d'Annie DiFranco. J'ai acheté ça parce que c'était la même qu'Annie DiFranco. Et donc j'ai pas mal de rythmiques qui sont faites avec cet instrument-là, qui théoriquement n'a rien à foutre dans un projet un peu. Et world est un peu moderne, quoi. Pareil avec les guitares à résonateurs. J'aime bien utiliser des guitares à résonateurs, précisément à la place des guitares acoustiques pour les arpèges, parce que ça sonne d'une manière, pas forcément en open, hein, vraiment, vraiment jouer comme une guitare folk. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça, des vieux banjos, des mandolines, des trucs comme ça que je vais utiliser. Ça j'aime bien. J'ai toujours ce projet avec Ostend, donc cet album qui devait sortir avant le confinement, puis qu'on se dit, bon, on va attendre parce qu'on ne le sent pas là, et on a bien fait. On a bien fait, ouh, on a bien fait. Donc ça va sortir. Il y a un clip qui est disponible sur YouTube, s'appelle Février, voilà,
Et c'est au stand avec un A, hein,
avec un
A-N-D-E,
A,
c'est ça?
avec une belle faute, ouais, volontairement. Parce que bon, c'est référence à Bachung, à Ostend, je tire Ostend, Stand. C'est un projet où vraiment on avoue totalement notre amour pour Bachung, et donc d'où le solo de slide sur ce titre Février qui est sur YouTube. Voilà, très long solo de slide, les cordes, les textes un peu sombres et l'ambiance mer du Nord au mois de janvier. Voilà,
D'accord.
voilà, j'adore ce projet, c'est vraiment un des trucs les plus personnels que.
D'accord. Si on veut du vrai Régis Savigny dans le texte, c'est ça qu'il faut aller
Voilà, ouais,
écouter.
ce clip-là, c'est ça, voilà. Il y a quand même pas mal ma patte dessus, même si c'est la voix de Pat Genet qu'on entend, et c'est lui qu'on voit sur le clip. Mais bon, a priori, tout le reste, mis à part les drums, voilà, c'est moi. Donc, pour le coup, c'est très personnel. Il y a aussi, évidemment, le prochain volume de United Guitars. Voilà,
Qui
où il y
devrait
a.
sortir donc début décembre, je crois.
Ouais, en principe, c'est ça, c'est début décembre. En tout cas, les masters sont faits. Donc, je pense qu'on est sur une fabrication là, dans les jours à venir. Et puis voilà. Donc ça, j'ai un projet en cours avec Sapho aussi. Alors c'est un long poème électro, voilà, où finalement je joue plutôt du sampler que de la guitare. Et puis ça, c'est les trucs, voilà, le personnel et qui sont à venir, voilà.
D'accord, génial. Eh bien écoute, Régis, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici au showroom. J'étais ravi qu'on ait enfin cette discussion guitare à la main. Et puis bah, tout plein de bonnes vibrations, je touche du bois pour la suite de cette belle aventure.
Ben, merci beaucoup. Ciao.
Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder aux vidéos intégrales.